Le café est une oasis. C'est le puits sur la route monotone. Son atmosphère est fortement opiacée. Et ceux qui l'ont respiré s'en passent difficilement.
Le bistrot, parlement du peuple.
Ce qu'ils recherchent, c'est des débats d'idées.
Hein. Je viens pour lire, puis je viens surtout pour les brèves de comptoir. Parce que les synthèses sont vraiment vite faites. Chacun a lu à sa façon, quelquefois le même journal, et n'a pas toujours retenu la même chose. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement les synthèses qui sont en 3-4 mots ou une phrase, et quelquefois même l'amusement quoi, derrière tout ça.
Les journalistes rivés à leurs ordinateurs devraient aller plus souvent dans les bistrots. Dans certains d'entre eux, on lit même « Ici, pas de wifi ». On se parle, le café et le parlement du peuple, disait naguère Balzac. Et Michelet, plus lyrique encore, au fond de la tasse de café, il y a un rayon de 1789. Évidemment, la vision inverse a sa part de vérité. L'assommoir, l'étouffoir de fumée. Les hygiénistes rêvent d'un monde qui serait d'équerre et où ne pourrait plus se dissimuler des repères, A-I-R-E-S. Mais maintenant qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics et que les établissements de boissons servent généralement moins d'alcool, on peut raisonnablement affirmer que les bistrots sont des points d'eau. Oui, des points d'eau où les oiseaux viennent boire. Autour du comptoir, ils soignent leurs amertumes mais éprouvent aussi leur verve. Car les oiseaux ne veulent pas tous devenir des perroquets qui imiteraient ce qu'on entend dehors. C'est tout de même un plaisir d'utiliser, voire d'inventer, une langue qui soit différente de celle des bureaux et des studios. Une langue qui ait quelque chose à dire en chair et en os. L'histoire que nous allons esquisser ici est évidemment celle d'un mythe, mais un mythe peut ne pas être une illusion.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ce que c'est bien, Pierre Boisard. Bonjour Pierre Boisard.
Bonjour Jean Lebrun.
À Bordeaux, donc, une exposition consacrée à la Cité du Vin, un lieu très très moderne de Bordeaux, le bistrot de Baudelaire à Picasso. Et puis, il y a peu, aux Presses universitaires de France, un livre que vous avez signé intitulé « La vie de bistrot ». Alors vous êtes un sociologue du travail qui s'ennuie parfois dans les réunions avec les collègues. Un sociologue du travail qui a consacré 3 livres au camembert ne peut pas être un mauvais homme.
Ben non, j'espère qu'on me juge ainsi.
Et pourquoi le camembert?
Pourquoi le camembert? Moi, parce que, d'abord, je suis né en Normandie, je pense que ça a joué un peu, et puis j'avais fait une étude sur les conséquences de la modernisation dans l'industrie laitière. Ouais. Ça m'avait amené à voir des fabriques de camembert, et j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin, de voir pourquoi le camembert était devenu un vrai mythe national.
Un mythe peut ne pas être une illusion. Lit-on dans le catalogue de l'exposition Bistrot Baudelaire Picasso à Bordeaux. C'est votre point de vue aussi, ça,
ah,
que vous avez éprouvé avec le camembert.
Tout à fait, tout à fait. Le mythe fait partie de la réalité pour moi. C'est une autre vision de la réalité et surtout, ça dit beaucoup de choses sur notre identité. C'est une autre façon de voir le réel.
Alors, notre identité ou notre récit national ou notre roman national du bistrot. On va commencer par un peu de généalogie parce qu'il faut toujours chercher les origines, n'est-ce pas ? Le Procope à Paris, on va parler de Paris surtout. 1686, les cafés du Palais Royal au XVIIIe siècle. Et puis alors, plus tard, ceux des boulevards, les grands paquebots illuminés de la Limonade ou les plus modestes embarcations. Nous sommes ici dans un film d'Henri Decoing, le café du Cadran.
Saint-Picon, 7 du Bonnet, 3 camps Paris.
Julien ! Julien ! Dis-moi, tu ne crois pas que ça va nous coûter trop cher, toutes ces tournées gratuites ?
Non, il faut arroser notre prise de possession, tu penses ? Ça se fait à Paris.
Tu crois ?
Ben alors Victor me l'a dit, et il est ici depuis 30 ans, alors tu penses ?
Monsieur Grégorio et ses amis voudraient prendre encore une tournée. Ce sont vieux habitués qui dépensent.
Mais il est sous votre Grégorio.
Quoi déjà ?
Non, madame, encore. Ça date d'avant-hier.
Ben, c'est du frappe.
Monsieur Grégorio ne se soule qu'une fois par semaine. Mais généralement, ça dure plusieurs jours. Alors je peux ?
Voilà Achille, patron. C'est le chef chasseur du café de Paris. C'est plus important qu'un ministre.
Ah, vraiment ? Et puis c'est une situation plus solide.
Ah,
Monsieur Achille, je me présente, Julien Couturier, le patron de la maison.
Enchanté, mon cher, vous avez la maison la mieux située.
Vous croyez?
Un grand restaurant en face, un théâtre à côté, un journal et une banque dans la même rue, croyez-moi. C'est la plus belle affaire du quartier.
Ah, tout de même.
C'est mieux qu'un café, c'est un carrefour.
Café, carrefour, un bistrot et un café, est-ce que c'est la même chose? On peut peut-être commencer en parlant de la bistrotte. Vous faites de l'étymologie, le mot bistrotte. L'héroïne du film de Decoing devient bistrotte, elle va d'ailleurs être assassinée par son époux Julien parce que, pense-t-il, elle fait trop de l'œil aux clients. Le mot bistrotte.
Oui, le mot bistrotte apparaît dans les années 1920, quelque chose comme ça. Et la bistrotte, c'est la patronne du bistrot. À l'origine, bistrot, ça ne désigne pas le lieu, ça désigne le patron ou la patronne. Et ensuite, bon, on a appelé bistrot le lieu où on venait boire. Mais alors l'origine du mot.
L'origine, oui.
L'origine, oui. Bah, alors, justement, il y a une
plaque, place du Tertre, voilà, qui témoigne d'une origine sûre. L'origine est étrangère.
L'origine est étrangère, mais en tout cas, pour moi, je tiens pour une légende, c'est les Cosaques en 1814 qui sont cantonnés à Paris parce qu'ils ont chassé Napoléon et ils ont envie de boire, ils sont très pressés et ils disent bistrot, bistrot parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Bistrot, ça veut dire vite en russe, d'où le nom bistrot. Il y a une plaque qui commémore ça à Montmartre. Cela dit, les étymologistes, les linguistes sont très très, n'y croient pas du tout, parce que c'est 1814 et la première mention écrite du mot bistrot, c'est 1884, et c'est l'aumônier de la prison de la Roquette qui rapporte ça et qui parle de la frangine qui prenait ses repas chez le bistrot. Donc chez le bistrot, c'est le lieu, c'est la personne qui tient le bistrot.
Ah, c'est ça le plus important, parce que quand vous poussez la porte d'un bistrot, on va raconter quel est le bistrot emblème que vous avez choisi dans votre livre, mais c'est pour un peu plus tard. Ce qui vous intéresse, c'est le patron ou la patronne.
C'est le patron ou la patronne, parce que je dis que ce sont eux les agents d'ambiance, c'est eux qui donnent un certain esprit, qui créent l'ambiance du bistrot, qui créent les relations, qui régentent tout. Enfin, c'est des metteurs en scène aussi, pourrait-on dire. Donc, un bistrot, il est ce qu'en fait son patron ou sa patronne.
Mais alors, quand j'étais petit, moi, je traînais avec mon grand-père dans les 12 cafés de la place du village, en Bretagne, et je disais à la grand-mère, en rentrant, je n'ai pas été chez la mère à boire. Alors, quand j'y réfléchis, la mère à boire faisait aussi très bien à manger. Un bistrot, boire, manger?
Oui, le bistrot, c'est à boire et à manger. Si, absolument les deux. Ça n'est pas un lieu où on va simplement écluser un verre de blanc ou prendre un café.
Alors, on va pas parler de la Bretagne, mais vous expliquez qu'un estaminet dans le Nord, c'est pas la même chose qu'un bistrot à Paris. D'une même, il y a des origines régionales au bistrot de Paris. L'Auvergne, je vous cite, a éteint ses volcans et allumé ses quinquets. Et les Auvergnats de Paris, qui tiennent des bistrots, ne sont pas à confondre avec les Auvergnats d'Auvergne.
Oui, bien qu'ils se réclament de l'Auvergne, en fait, les Auvergnats sont devenus à Paris pour échapper à la misère de l'Auvergne. Et une fois sur place, ils n'ont pas imaginé de retourner dans leur province natale parce qu'ils savaient que là-bas, c'était la misère et qu'ils préféraient l'activité et la modeste aisance de Paris.
Mais attendez, ils ne faisaient pas bistrot au départ, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Alors, ils ne faisaient pas bistrot, ils faisaient des tas de petits métiers inimaginables. Maintenant, ils vendaient des parapluies, les réparaient, ramassaient des clous par terre ou des chiffons qu'ils recyclaient. Ils portaient de l'eau froide dans les étages et ensuite de l'eau chaude quand il y a eu l'adduction d'eau partout dans Paris. Et ils ont fait aussi le commerce de lait, etc. Et en fait, d'abord pour leur propre usage, ils ont créé des lieux où on pouvait se restaurer et boire un peu et parler du pays.
Et ils portaient du charbon, n'avez-vous pas dit?
Alors, ils portaient du charbon qui venait d'Auvergne d'ailleurs. Et ils servaient du vin, sans doute une mauvaise piquette qui venait également d'Auvergne.
Alors, le bougnat auvergnat porte le charbon, par exemple très tôt le matin, puis tient son bistrot. Le café dont vous faites le portrait se situe au 109 rue de Grenelle. On va aller vers lui progressivement, en remontant le temps et en remontant la rue. Là, nous sommes en 1964, dans une émission de Jean-Émile Jeanneson, au 70 rue de Grenelle, chez le bougnat Tourette.
À 7h, on commence à livrer du charbon. l'hiver. Mmh. L'été, on un peu plus tard, 7h30. Mais l'hiver, à 7h, on le chauffe, et jusqu'au soir, à 6h du soir, ou 6h30. À 8h30, alors, après avoir déjà monté quelques étages, et puis tellement aller vers les rues de Paris, 8h30, c'est le casse-croûte, et puis on a faim, ce soir-là. Et le bon casse-croûte, c'est là que le Beaujolais est bon, le premier verre de Beaujolais le matin.
Ah, la vôtre, monsieur Tourette.
Il y a des boulets, il y a toujours des boulets, c'est tout ce qu'on va avoir.
Il n'est pas mauvais, ce vin-là.
Hein. Évidemment.
Moi, je trouve que c'est très bon pour l'oublier, ça.
Vous êtes un peu un ami des arts, non?
Ah, si.
Des artistes.
Des artistes, surtout. Des artistes, surtout. Et les comédiens, aussi. Des gens de cinéma. J'ai eu beaucoup. Un comédien que j'aime beaucoup, et que je vous citais, c'est Hubert Deschamps.
C'est autre chose.
Oh, nous avons eu beaucoup de frères Jacques, qui sont venus pendant des années. Et de temps en temps, on les revoit. Mais ils venaient souvent en groupe, avec le groupe, ils venaient à 8 ou 10, et ils faisaient demander un petit casse-croûte, là où ils restaient là fort longtemps. Ils nous faisaient coucher tard, quelquefois. Et parfois, il y avait des dessins pour des débutants qui étaient très très bien.
Et les parlementaires?
Ah là, non. Les députés, on ne les voit pas. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont aventurés il y a déjà de nombreuses années, mais ils ont été rayés par les clients. On ne les a jamais revus. Oh non, surtout pas les députés ici.
Vous en avez entendu parler du Bougnat Tourette? Au s'en offre une Grenelle, où on va parvenir dans un instant.
Oui, il y a un ouvrage d'une sociologue historienne qui s'appelle Françoise Jourde et qui en parle, qui lui fait parler dans son livre.
Alors, c'est l'ouvrier ami des artistes.
Oui.
Et il y a tout ça qui peut se mélanger, rue de Grenelle, parce qu'on n'a pas entendu le nom de Nimier, qui dans le reportage est longuement cité.
Oui, alors c'est ça un peu le miracle des bistrots, je trouve, c'est que tout le monde se mélange et se respecte en même temps, et qu'on oublie, en fin de compte, qui on est, enfin, quel est son statut social. C'est-à-dire qu'on rentre dans un bistrot, on accroche au perroquet sa veste et son statut social, et à l'intérieur du bistrot, on est tous des citoyens de bistrot.
Oui, mais alors attendez, avant de parler des citoyens de bistrot, vous pouvez situer le quartier, on va passer 30 numéros et aller au 109, on est pas loin des ministères.
Oui, alors, ce qui est particulier dans ce quartier, c'est que la nuit, enfin le soir, c'est un quartier très très bourgeois. C'est le quartier le plus bourgeois de Paris. Bourgeois distingué, mais bourgeois quand même. Et dans la journée... Ben,
bourgeois, où on ne parle pas d'héritage, d'argent, oui. De relations, de filiation.
On parle de généalogie, pas d'argent, pas d'héritage. Mais dans la journée, eh bien, on a des ouvriers tôt le matin, des employés de ministères, mais on a aussi des patrons, enfin des dirigeants, des hauts fonctionnaires. Bon, tout ça se mélange. Et des militaires.
Et des sociologues qui s'ennuient et qui, après une réunion interminable, c'est votre cas il y a quelques années, poussent la porte du 109. Alors là, il faut qu'on dise comment s'appelle ce bistrot au 109 et qui le tient.
Alors, il s'agit du Martignac, qui est pratiquement à l'angle de la rue de Martignac et de la rue de Grenelle, d'où son nom, et il est tenu par un personnage haut en couleur, remarquable, c'est Yves Morlot.
Alors c'est un Auvergnat, mais c'est pas un Auvergnat qui ressemble exactement au prototype, il y a plusieurs modes d'accès par l'Auvergne et le Massif Central au Café Parisien.
Oui, c'est un Auvergnat qui est né à Paris, qui s'est retrouvé en Auvergne pour des raisons familiales à l'âge de 7 ou 8 ans et qui n'a pas bien supporté l'Auvergne. Donc il a quand même appris un certain nombre de choses de l'Auvergne, notamment l'économie. Et puis il a appris à tenir un bistrot, à faire de la cuisine, de la très bonne cuisine. Et il revient à Paris parce qu'il se rend compte que finalement en Auvergne, on n'a pas beaucoup d'avenir lorsqu'on n'a pas des soutiens familiaux ou des grandes relations, ce qui était son cas.
Quand vous dites l'Auvergne, il faut entendre ça comme Alexandre Vialat qui dit le Massif Central, c'est pas n'importe quoi, mais je peux pas dire exactement où il est et quelles sont ses limites.
Oui, tout à fait. Je rejoins complètement Vialat. L'Auvergne, ça a un côté un peu mythique. Donc, on sait que c'est autour du Massif Central, mais on ne sait pas exactement quelles sont ses frontières. D'ailleurs, au cours de l'histoire, les frontières ont varié. Donc, est-ce que l'Aveyron, par exemple, le nord de l'Aveyron fait partie de l'Auvergne? Pour certains, non. En réalité, je pense que oui. Et donc, ce qui est important, c'est que dans l'Auvergnat de Paris, le journal créé par Louis Bonnet, qui fédérait l'ensemble des Auvergnats, eh bien, on regardait pas les frontières, on ramenait aussi bien l'Aveyron que la Haute-Loire. Bon, tout ça était tous ceux qui, les lecteurs de l'Auvergnat de Paris, on pouvait les considérer comme des Auvergnats de Paris.
Mais alors, quand Morlot achète son café, son bistrot, il l'achète à un Auvergnat. Quand il a des difficultés financières liées à un cambriolage, c'est à sa banque qu'il s'adresse ou bien c'est aux Auvergnats?
Alors, il s'adresse d'abord aux Auvergnats. D'ailleurs, si vous voulez avoir un bistrot dans Paris, il faut avoir fait ses preuves comme garçon de café dans un autre bistrot, dans un café, et vous devez avoir l'appui de, je ne vais pas dire la mafia, mais enfin le milieu auvergnat.
Très sinon, important. Vous êtes chocolat. Encore que le mot chocolat, ça désigne les prêts que les Auvergnats peuvent faire à d'autres Auvergnats.
Bah oui, c'est une manière, le chocolat, on connaît la couleur, c'est noir. Donc c'est du noir, c'est du black, comme on dit.
Et alors les grands distributeurs de café, de boissons, chez qui on s'alimente, vont être Auvergnats?
Oui, ils sont pratiquement tous Auvergnats. Je ne donnerai pas de nom là, mais les trois gros fournisseurs de café, de vin, de bière à Paris sont des Auvergnats. Ouais.
Mais vous savez, il y a de la publicité maintenant à France Inter, mais pour accéder à la publicité, il faut payer. Et ce qui définit métaphysiquement un Auvergnat, c'est le sens de l'économie.
C'est le sens de l'économie et c'est aussi le travail.
Alors, vous les suivez, les patrons, depuis... 5h le matin jusqu'à 21h40,
oui.
45.
Oui, ça c'est le cas de Yves, mais pour moi c'est un athlète de bistrot. C'est-à-dire qu'il est capable effectivement de travailler sans interruption absolument de 5h du matin jusqu'à 22h le soir.
Mais autrement c'est l'ennui, fatigue, le travail,
oui.
Non.
Et c'est ce qu'il dit, oui.
Alors, il paraît que votre homme, il est capable de reconnaître comme ça, dès que quelqu'un pousse la porte, fait un mètre, il reconnaît.
Oui, oui, ça,
il reconnaît
c'est
le métier,
c'est très important.
La psychologie.
Il sait à qui il a affaire, parce qu'il doit s'adapter aux personnes à qui il a affaire, et éventuellement, si la personne ne lui plaît pas pour telle ou telle raison, il est capable de les virer.
Alors ici, nous sommes dans le film Brève de comptoir. Il faut dire que le quartier que vous inventoriez est tout près de Sainte-Clotilde, la basilique des parlementaires, que les députés ou les sénateurs fréquentent les ministères voisins. Celui qui entre dans Brève de comptoir dans le café, qui pousse la porte, qui fait un mètre, c'est André Dussolier, les députés.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, quel beau café. Bonjour. Ah, ça, c'est un vrai café. Ouvert sur l'Europe.
Et l'Europe? Comment tu veux qu'elle soit belle? Avec les Allemands au nord, les Espagnols au sud.
Tu verras. Avec l'Europe, tout le monde va finir dans nos coins à champignons.
Sûrement pas. Le français est capable de donner des juifs pendant la guerre, mais dire un coin à champignons, ça, jamais.
Nous, on a visité la Grèce, pas terrible. L'année prochaine, on s'est dit on va faire la Turquie. Mais je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Si c'est comme l'Égypte, c'est pas la peine.
En tout cas, si la Turquie, elle rentre dans l'Europe, on a intérêt à changer les serrures.
C'est comme nous, où on était en Espagne. Il n'y avait que des Allemands. Bon, bah, à la limite, c'est mieux.
Au fond, c'est un parlement sans parlementaires. Parce que vous avez remarqué, le Bougnat-Tourette, au 70, en 64, il refusait les députés.
Oui.
Et puis, les députés n'ont pas nécessairement beaucoup de succès au 109 non plus.
Alors, moi, j'ai vu quelques parlementaires au 109, mais en fait, ils oublient qu'ils sont parlementaires. Ils sont comme les autres, c'est-à-dire qu'ils quittent leur écharpe. Évidemment, ils n'ont pas d'écharpe, mais enfin, au sens symbolique du terme. Donc, au Martignac, il y a toutes les catégories sociales, il y a tous les métiers.
Mais attendez, comment un militaire enlève-t-il ses galons?
Alors, il les enlève pas, mais il les montre pas, il ne frime pas. Je veux dire, il devient un citoyen de bistrot, comme les autres. Donc,
mais comment un directeur de ministère ne traite-t-il pas de haut au comptoir son simple chef de service?
Bien, s'il le fait, je peux vous assurer qu'il ne reviendra pas une deuxième fois parce que le patron va lui dire qu'il n'a pas sa place là.
Donc un vrai patron, c'est celui qui sait reconduire, y compris, dites-vous, son banquier.
Absolument, oui, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ce qui est très important, c'est cette civilité entre les personnes. C'est-à-dire que tout le monde se respecte, tout le monde est sur un pied d'égalité.
Alors, on peut parler politique. Je voudrais bien qu'on en vienne à cette question. Le Parlement du peuple, nous sommes à la veille des élections, dans ce lieu où tout le monde voit abolie son appartenance politique, sociale ou religieuse. C'est plus facile de parler politique comme ça ?
Alors, quand on parle politique, d'abord, on ne parle pas que ça, mais il y a une certaine manière de parler de la politique. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Donc, on peut faire parler de ses opinions, mais il faut s'attendre à ce qu'on soit charrié sur ses opinions, qu'il va y avoir des plaisanteries. Et donc, c'est un discours, une discussion politique d'un genre particulier où on prend... En fait, on est obligé un peu d'en rabattre sur ses opinions. Et ça fait beaucoup de bien.
Alors, c'est un mythe, dites-vous, mais les mythes ont une réalité, mais ils connaissent une évolution. Le tumulte modéré du café peut avoir, à certains moments, c'était pas si lointain dans l'histoire, dans les années 60, avoir été recouvert par le jukebox.
Bah alors, j'ai dit que vous avez peur d'user le jukebox. Bon, je vais devoir vous montrer comment ça marche, hein. Qui c'est qui a une pièce d'un franc ?
Mais là, il t'appelle là derrière le comptoir.
Pire qu'en flamand, je dis là. Arrêtez bien. Arrêtez bien comment ça marche parce que je vous le montrerai pas deux fois. S'il vous plaît, du box. Ah, à demain alors.
Jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Quand il ne se balade pas sur toi, je ne sais que faire de mes 10 doigts. Je ne sais que faire de mes 10 doigts, alors je les claque, 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 claque devant les jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Boisard, nous parlons de la vie de bistrot. C'est le titre de son livre aux presses universitaires de France. C'est à dessein que nous avons passé, Gaëtan Colli et moi, Serge Gainsbourg, parce qu'il y a ce soir une soirée spéciale France Inter consacrée à Serge Gainsbourg. Le Martignac dont vous nous parliez ferme le soir. Le grand moment, c'est le midi pour le Martignac. Et vous pouvez, chers auditeurs de Paris, donc rejoindre la maison de Radio France. Il faut qu'on parle un peu de l'évolution du bistrot tel que vous l'avez entendu raconter par les uns et par les autres dans vos lieux d'observation. Ça a été important, le jukebox.
Très important. Le jukebox et les flippers. Et les machines à sous aussi.
C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le bistrot a vu son esprit de parlement du peuple être supplanté par le côté salle de jeu ?
Non, c'est beaucoup dire, mais il y a eu un moment où les machines à sous, les flippers et les jukebox rapportaient tellement que certains patrons de bistrot en ont oublié leur véritable rôle social, c'est-à-dire servir des cafés, faire la conversation et puis animer leur bistrot. Donc.
Mais alors pourquoi la radio et la télé dont vous mesurez le rôle dans les bistrots parisiens ont-ils un effet moins dévastateur, moins transformateur en tout cas, parce que la télé est muette?
Oui, alors dans certains bistrots, on met pas la télé. Mais même quand on met la télé, on la met différemment. D'abord, elle ne couvre pas les discussions, ou alors c'est à des moments particuliers. Par exemple, des finales de Coupe d'Europe de football, où là, tout le monde vient dans cet endroit pour communier ensemble aux prouesses ou aux défaites de l'équipe.
Mais ce que vous recommandez, vous, c'est de mettre des chaînes du genre Fashion Week.
Oui,
parce que comme
oui,
ça, on alors... voit que des jolies femmes, oui. Et même les femmes qui sont nombreuses dans les bistrots que vous fréquentez, n'y voient pas d'inconvénient.
Non, ça c'est l'astuce du patron du Martignac, oui.
Et est-ce qu'on vous parle de la transformation que provoque l'évolution du prix des loyers ?
Oui, parce que c'est un risque pour les bistrots. L'augmentation du prix des loyers bien, se répercute forcément sur le prix des consommations. Et ça a un effet dissuasif pour un certain nombre de clients, surtout pour les jeunes. Parce que lorsque le café devient trop cher, eh bien, on préfère le prendre à la maison.
On reconstituera pas les cafés d'autrefois dans notre quartier, dans le 14e arrondissement. Un concept vient de s'appliquer au temps passé. Alors on sert de la blanquette, on met sur une ardoise avec des fautes d'orthographe du bonnet Bartisol, etc.
Oui, non, ça, vraiment, c'est de la tradition en carton-pâte, c'est pas sérieux du tout. Je pense qu'un bistrot, un vrai bistrot, doit pouvoir s'adapter à la modernité et pas faire semblant de copier ce qui avait du succès il y a 50 ans.
Ben oui, parce que ce serait tuer la légende.
Absolument, oui. Il faut la recréer, la légende. Il faut la faire vivre.
C'est-à-dire qu'en histoire, comme en sociologie, il n'y a pas de reconstitution, il y a peut-être des recommencements, et la première catégorie, c'est pas le souvenir, c'est le devenir.
C'est le devenir. En fait, la tradition, elle se réinvente en permanence.
Votre livre s'intitule donc « La vie de bistrot ». L'adresse d'Yves Morlot et de Nathalie, son épouse, a été longuement donnée. On n'est pas là pour pleurer. Quand même, vous avez eu une fois un cauchemar, tout était fermé.
Oui, oui. Alors, c'est un monde sans bistrot. Je me réveille le matin et tous les bistrots sont fermés. Et il y a une machine, un café automatique qui sert du café. Il n'y a plus de patron de bistrot. C'est horrible.
Il est planté depuis combien de temps?
Depuis 1870.
Pour l'instant, c'est un peu plié. Depuis 1870, vous dites, mais c'est pas vous qui l'avez planté, alors?
Je ne pense pas, non.
Les précédents locataires, je suppose. L'arbre a été planté, alors comment il a fait? Il a poussé?
Il a poussé, oui, naturellement. Ça a été planté pour la naissance d'une fille.
Dites-moi, quels sont les avantages d'avoir un café autour d'un arbre ou un arbre dans un café?
C'est d'abord une curiosité.
Oui,
et en plus de ça, un gros avantage, c'est l'été quand il fait bien chaud. Parce que lorsqu'on rentre en plein après-midi, il fait vraiment bon.
Alors pourquoi partez-vous exactement?
Je vais partir parce que nous avons été expulsés par la ville de Paris, moi et ma famille, qui se compose de 4 filles, 4 gendres, 4 chats dont 3 blancs et 1 gris, une chienne et 2 serins.
C'est une famille vraiment nombreuse. Mais dites, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous dites que c'est la ville de Paris qui vous expulse alors que je croyais qu'on était ici au Lila.
C'est-à-dire, vous êtes sur Paris et moi je suis sur les Lilas. C'est le comptoir qui fait frontière entre les deux communes.
Ah oui, alors par conséquent, vous me versez un verre au Lila et moi je bois le verre à Paris.
C'est ça.
Et tout ceci, vous ne le ferez plus et vous ne le verrez plus.
Ah ben certainement, non.
Encore un coin du vieux Paris qui s'en va.
Qui s'en va, certainement.
On a terminé cette émission avec votre vision de cauchemar, Pierre Boisard, et puis voici une vision genre théâtre de l'absurde, 1958. Très joli reportage de Claude Thomas à la télévision française, retrouvé comme tous les documents sonores de cette émission par Martin Cellier qui l'a préparé. La réalisation Gaëtan Colli et Loïc Frapsos à la technique. Et chez vous, cher Daniel Fievet?
Eh bien, ça va bien, Jean Lebrun. On va parler de toutes ces petites manipulations du quotidien. Nous sommes tous, tour à tour, manipulés, manipulateurs à nos heures.
Amorçage, étiquetage, naturalisation, que des procédés lyophilisants. Merci à vous, ce sera dans un instant dans la tête au carré.